Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour inaugurer la programmation associée autour de l'exposition Corto Maltese, une vie romanesque qui vient d'ouvrir à la BPI et qui se tiendra jusqu'au 4 novembre prochain. Cette exposition fait partie de l'événement La BD à tous les étages, célébration exceptionnelle de la bande dessinée dans tous les espaces du Centre Pompidou. Ce soir, nous vous invitons à prendre le large et à parler de Corto Maltese et de son créateur, Hugo Pratt. Pour évoquer ce véritable voyage spatial et temporel que constitue Corto Maltese, nous sommes ravis d'accueillir Michel Pierre, historien et auteur de plusieurs ouvrages en collaboration avec Hugo Pratt. Jean-Christophe Augier, journaliste spécialisé en bande dessinée, nous fait l'honneur d'animer cette discussion. Avant de leur laisser la parole, je vous annonce d'ores et déjà les prochains rendez-vous dès lundi Corto. Le 10 juin, lundi prochain, pour un lundi de l'INA BPI avec une carte blanche à Vincent Petit, éditeur de Corto Maltese chez Casterman. Le 17 juin, nous continuerons avec un grand entretien de Thierry Thomas, auteur de Hugo Pratt, trait pour trait, une conversation animée par Olivia Gesbert. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci. Merci à la BPI pour cet accueil. Permettez-moi quand même d'abord de revenir un peu avant de rentrer dans notre discussion sur, en quelques mots, Corto Maltese. Alors si vous êtes là, c'est que vous connaissez sans doute Corto Maltese, dont on rappellera que c'est le plus bel aventurier de la bande dessinée. J'espère ne pas me tromper, que c'est un gentilhomme de fortune, un caractère complexe, toujours témoin autant qu'acteur de ce qui lui arrive et notamment du monde dans lequel il évolue, c'est-à-dire le début du XXe siècle. Corto, rappelons-le, est né à Malte en 1887, parce qu'il a existé, nous le verrons évidemment, et que il n'y a rien de plus beau que de ne pas connaître la fin d'un tel personnage puisqu'il disparaît. En 1936, pendant la guerre d'Espagne, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Avec nous, Michel Pierre. Michel Pierre, vraiment, on a de la chance de l'avoir avec nous parce que historien, effectivement, spécialiste, entre autres choses, de l'histoire coloniale. Il fut enseignant, et notamment à Sciences Po. Il a été directeur littéraire chez Casterman. Il a été en charge d'actions culturelles, alors par Mons et par Vaud, j'allais dire, c'est-à-dire auprès de différentes institutions, ambassade de France, institut culturel, ville de Bordeaux, ministère des Affaires étrangères. Et puis, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, beaucoup, sur un certain nombre de sujets différents, mais aussi, et c'est pour ça qu'il est ce soir, sur Corto Maltese, dont il a publié les mémoires avec Hugo Pratt, mémoires signées Hugo Pratt, mais dont l'artisan est Michel Pierre. Aventureuse, Aventureuse est un livre qui existe aujourd'hui, mais qui précédemment s'appelait Les femmes de Corto Maltese, mais au tempora o mores. On ne parle plus des femmes de Corto Maltese, mais d'aventureuses, puisque ce sont toutes les femmes qui croisent le parcours, ou que Corto Maltese croise le parcours des femmes fortes. Armorique, balade de Corto Maltese en Bretagne, un très joli guide. Et puis ce qu'on appelait carnet de Cambuse et qui s'appelle maintenant Cuisiner à bord avec Corto. Les recettes de Corto Maltese à travers le monde. Vous êtes également co-commissaire d'exposition autour de Corto Maltese. Vous avez connu Hugo Pratt et vous avez donc travaillé avec lui. Avez-vous d'abord connu Hugo Pratt ou Corto ?
Ouais, je crois que comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai d'abord connu Corto dans PIF. J'ai fait partie des lecteurs qui trouvaient ça tout à fait extraordinaire. Alors que d'autres, comme on le sait, préféraient bien sûr Rahan et Docteur Justice. L'un n'empêchait pas l'autre, de fait. Mais c'est comme ça que j'ai d'abord rencontré Corto. Puis la vie a fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer Hugo Pratt au début des années 1980. Et puis, d'un premier contact, on est passé aussi à une forme de collaboration. Enfin, je modeste de ma part, avec l'idée effectivement de faire Corto Maltese mémoire d'abord, puis les personnages féminins. Et enfin, là, c'était quelques temps Hélas, avant sa mort, il avait eu l'idée de ce livre de cuisine qui est venu de cuisiner à bord avec Cortot, qui était l'idée de recettes à faire sur un bateau, mais pour 4 personnes. Qu'est-ce qu'on embarque et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors évidemment, avec une prévalence des pâtes, des épices, des poissons, et puis d'essayer aussi des recettes, ça on s'était amusé aussi avec ça, infaisables en quelque sorte, mais trouvables dans des vieux bouquins de cuisine du temps des colonies. J'avais mis la main par exemple sur un livre qui avait été fait au moment de l'exposition coloniale de 1931 et qui s'appelait La belle cuisine de nos colonies. Et dans La belle cuisine de nos colonies, il y a une recette de pied de dromadaire à la vinaigrette. Donc évidemment, ça ne s'invente pas. Et avec Hugo, on a mis la recette du pied de dromadaire. Alors là, on n'est plus sur la mer, mais on sait que de temps en temps, Corto Maltese faisait des escales. Quoi. Mais on ne peut pas... Une telle idée d'avoir le pied de dromadaire à la vinaigrette, qui est une vraie recette dans un vrai bouquin, et de le remettre dans ce livre de cuisine, on n'a pas pu y résister.
Avant d'aborder la thématique de cette soirée autour des références qu'on va trouver dans Corto Maltese, notamment les références littéraires, celles qui ont donné le corps à la grande exposition. Si vous ne l'avez pas encore vue, il faut monter au 2e étage à la BPI. Corto Maltese, une vie romanesque, est une très très belle exposition autour de Corto Maltese. Et j'ajoute aussi, si vous n'avez pas encore vu les autres expositions du Centre Pompidou, la bande dessinée à tous les étages, il faut vraiment y foncer parce que c'est remarquable. Toujours est-il qu'on vient de voir que Corto existait, mais Hugo Pratt aussi a existé, il semblerait. Il est né en 1927 à Rimini. Il a passé son enfance à Venise avant de partir. Mais ça, on le sait si on lit un peu les aventures de Corto Maltese ou si on s'intéresse un peu à la vie de Pratt. Ce qu'on sait moins, c'est un peu ce qui s'est passé avant pour essayer de comprendre comment est né Corto. J'ai le sentiment qu'il faut comprendre aussi Pratt et comprendre d'où il vient. Quels étaient les parents, les grands-parents d'Hugo Pratt? Est-ce qu'on le sait?
Oui, enfin, on commence à le savoir de mieux en mieux grâce à aussi des historiens, des journalistes qui travaillent sur la question, en particulier sur l'ascendance paternelle d'Hugo Pratt. D'abord, il est né Pratt avec un T. Comme on le sait. Et son grand-père se prénommait Joseph Pratt. Donc en fait, le grand-père de Hugo Pratt était complètement français, avec toute une famille qui remonte à Louis XIV, mais née dans le Vaucluse. Donc son grand-père Joseph Pratt, pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'expliquer, va quitter la France, s'installer à Milan, mais devenir prof de français à Milan, mais pas un prof de français.
Sous le nom de Joseph ou de Giuseppe?
De Giuseppe. Il devient Giuseppe Pratt, toujours avec un T. Et il devient un professeur de français, mais de renom. Il fait par exemple une grammaire de français qui va avoir au début du XXe siècle beaucoup de rééditions et qui est publiée en Italie par l'équivalent de Hachette par exemple en France. Il va publier, ce Joseph Pratt, aussi un livre d'exercice et de lecture de français. Et il devient une référence en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il est repéré et il devient professeur à Venise. Alors Hugo disait, mon grand-père, il est devenu professeur dans une école juive à Venise. Donc on ne fait pas très attention, hein, c'est ce qu'on trouve. Mais une école juive, on imagine éventuellement même une école banale dans le ghetto ou à proximité du ghetto. Et en fait, il devient professeur à ce qu'on appelle l'Istituto Rava, qui est l'équivalent, disons, du collège Stanislas à Paris, mais pour Venise.
C'est-à-dire, c'est petite école.
Non,
c'est
pas. C'est une école qui. Alors, c'est une école qui occupe un palais sur le Grand Canal, qui est devenu aujourd'hui un hôtel de luxe. Et cet Istituto Rava faisait, par exemple, des publicités dans les dépliants touristiques donnés gratuitement aux touristes de toute l'Europe, un dépliant en couleur, où on faisait des études en français, en anglais, en italien. Où on préparait à l'école navale de Livourne, etc. Donc c'est une grande école, en quelque sorte, avec l'équivalent de classe préparatoire, dans lequel le grand-père devient un professeur. Donc en fait, le grand-père d'Hugo, bon, il y a des recherches encore à faire là-dessus, mais était certainement l'une des personnalités de la classe moyenne supérieure à Venise, du côté paternel. Du côté maternel, c'est aussi un grand-père poète vénitien, connu, publié, et qui est par ailleurs aussi connu à Venise comme étant l'un des premiers à créer les premières équipes du fascisme naissant à Venise. Donc, en fait, l'ascendance de Hugo, sur laquelle il n'a jamais vraiment insisté au niveau des grands-parents, n'est pas banale. Elle l'apparente à une sorte de classe moyenne supérieure, ce que son père ne sera pas.
Je note un professeur de français d'une part, de l'autre côté un poète.
Un poète vénitien vaguement fasciste.
On va comprendre que les influences d'Hugo Pratt littéraires ne viennent pas de nulle part. Il a quand même baigné dans ce type d'éducation.
Oui, et puis alors il le disait alors là, que par exemple le prénom de son père, Rolando, Roland, par rapport au grand-père, professeur de français et français, ramenait évidemment la chanson de Roland, etc. Donc un classique français. Et que après, alors c'est impossible à dire, mais qu'il rajoute le H de Hugo, qui devient Hugo, même si je pense que pour le double T de Pratt, ça a plutôt à voir avec...
On y viendra plus tard.
Mais donc, on rentre déjà dans des choses un peu complexes. Mais le père de Hugo ne sera pas tout à fait dans la lignée de ses grands-parents, de ses deux grands-parents, qu'on peut dire, enfin prestigieux, le mot est un peu fort, mais quand même qui existent dans la vie, même si le grand-père paternel meurt avant 1920.
Venons-en à Corto Maltese. Alors vous disiez que vous l'aviez rencontré dans PIF, qui est le magazine pour jeunes, pour enfants, qui avait été le premier à publier Hugo Pratt en français en commandant des histoires courtes, mais Corto était né avant, Corto était né en 67, c'est-à-dire que Hugo Pratt avait 40 ans quand arrive Corto. Et la première fois qu'on découvre Corto Maltese est ce personnage à demi-nu, entravé sur un radeau, ballotté par les flots en plein océan Pacifique, dans les premières pages de la Ballade de la mer salée. C'est un personnage parmi d'autres. Il n'est pas alors promis à un destin particulièrement brillant, même que Hugo Pratt lui-même n'avait pas l'intention d'en faire son personnage principal. C'était déjà, je crois, une jeune fille qui devait être le principal personnage de cette
histoire.
Il avait
aussi songé un moment à Rasputin comme personnage.
Ah. Et en l'occurrence, voilà comment nous découvrons Corto Maltese. Vous avez souhaité appeler cette discussion, rappelez-moi le titre, beau titre que vous évoquez.
Oui, sur la fin, j'ai oublié du reste, c'est la phrase de Melville sur les côtes sauvages et les mers interdites, et qui est une phrase de Melville, qui a été quand même évidemment l'un des grands, des grandes influences, des grandes lectures d'Hugo Pratt, dont on voit aussi peut-être en réaction à la culture française dont on parlait précédemment, qui va lui beaucoup s'orienter vers des influences anglo-saxonnes. Hein, il disait souvent que, évidemment, sa culture, c'était pas Madame Bovary et Flaubert, mais c'était Stevenson ou Melville, etc.
Et quand, alors pour Jack pour, London.
Jack London. Et pour en revenir à Corto crucifié,
oui.
C'est vrai que au départ, que ce personnage qui est là, qui devienne un héros, alors qu'il est mis dans cette situation relativement désagréable.
Inconfortable,
parce que, semble-t-il, il est refusé d'épouser la fille d'un chef local qu'il a en quelque sorte déshonoré et puni de cette façon. Quand on veut faire naître un héros, c'est pas franchement un point de départ formidable. Et c'est vrai, bon, l'anecdote est connue, que quand il va, par manque de travail, se diriger vers Paris et frapper à la porte des éditions Vaillant et de PIF, eh bien, il va, de tous ces personnages de la Ballade de la mer salée, il va sortir Corto Maltese, qui lui permet en plus de faire... Il faut bien voir le défi, là, parce que la Ballade de la mer salée, c'est 160 planches, alors que à PIF, on lui demande des histoires complètes.
Jean-Paul Mougin, le rédacteur en chef, directeur éditorial, lui dit...
Oui, c'est 20.
Le principe de PIF, rappelons-le, ce n'était que des histoires complètes dans chaque numéro pour chacun des personnages, des héros, qu'il s'agisse du docteur Justice, de Raran et autres grêlés 7-13. Donc, il fallait que Corto se plie à cette contrainte.
Que Hugo Corto. Donc, on est sur des récits de 20 pages. Donc, il va passer d'une liberté totale de faire 150, 140, 180 s'il avait voulu, à la rigidité d'une vingtaine de pages. Donc, il va repartir vers ce qu'il avait déjà un peu fait quand il était en Argentine, c'est-à-dire le travail de feuilletoniste, en quelque sorte.
On viendra à l'Argentine. Effectivement, on trouve dans le magnifique catalogue que je vous montrerai tout à l'heure et dans l'exposition cette obligation de la contrainte qui va l'amener à prévoir, anticiper de la pagination de ce que seront ses histoires, ce qu'il ne faisait pas avec la balade et ce qu'il ne fera pas ensuite quand il reprendra de grands récits au long cours où il se laisse aussi emporter par le récit, par l'action et par ses personnages. Vous disiez que ces références littéraires le menaient plutôt du côté des anglo-saxons parce que peut-être c'était les grands écrivains maritimes. La mer est là déjà, toujours.
Oui, je pense qu'il y a la mer, il y a aussi il y a aussi le cinéma, par exemple, on parle beaucoup de littérature, mais pas le personnage qui est là de Corto Maltese, c'est Burt Lancaster. L'influence, c'est du personnage vient du cinéma. Et cette scène-là, vous la retrouvez, mais exactement la même, dans un film qui s'appelle Le réveil de la sorcière rouge, qui est un film de 1948, où exactement dans cette situation, c'est John Wayne qui est livré au flot de cette manière quelque peu crucifiée. Donc, chez Hugo, il y a plusieurs affluents et influences qui vont jouer dans sa création, qui sont le cinéma, y compris bien sûr le cinéma américain, qui est diffusé à haute dose dans l'Italie de l'époque. Il ne faut pas croire que avec l'installation du fascisme à partir de 1922, les influences américaines aient été rejetées. J'allais dire bien au contraire. La Mostra de Venise, qui naît en 1932, va diffuser ou permettre la diffusion partout en Italie de tout un ensemble de films allant du western jusqu'au film. Au film maritime, au premier film maritime, avec y compris, parce qu'il y avait la Mostra pour l'élite, mais il y avait aussi Place Saint-Mars, qu'on oublie parfois, des grandes projections, y compris de films américains. Alors évidemment, ce n'est pas les films pardon, d'après-guerre, comme Le réveil de la sorcière rouge ou bien Burt Lancaster dans Le roi des îles, mais c'est les premiers grands films d'Hollywood qui sont quand même présents en Italie. Et c'est aussi la bande dessinée américaine à partir des années 30, à haute dose.
Pratt, enfant du fascisme et de la culture américaine.
Il y a tout un ensemble sur lequel il permettrait encore de travailler. C'est-à-dire, il faut bien voir aussi que le fascisme est une idéologie de l'image, par l'affiche, par le cinéma, par les bandes d'actualité, par la bande dessinée, même quand on est enfant, qu'on doit s'inscrire ou pas, du reste au Balila, aux jeunes fascistes, il y a une revue qui s'appelle dessinée qui s'appelle Il Balila. Et puis l'Église catholique va soutenir, par exemple, un hebdomadaire de grande qualité qui s'appelle L'Aventuroso, l'aventurier, qui va publier des bandes dessinées fabriqués en Italie, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui sont d'une qualité équivalente aux grands classiques américains, qui sont par contre tout à fait acceptés jusque 1938. Le jeune Hugo, en 1938, il est parti en Éthiopie, mais il faut bien comprendre et bien voir qu'on est sur des tirages gigantesques. Comment dirais-je, Fellini, par exemple, Umberto Eco et bien d'autres de cette génération évoquent tous cette culture de la bande dessinée qui était à la fois d'origine américaine et d'origine locale.
Umberto Eco, Foucault qui avait dit « quand je veux ».
Oui.
C'est quoi sa phrase quand quelqu'un la sait-il là dans la salle ? Quand je veux quand je veux m'amuser, je lis
Engels.
Et ouais, Engels. Et quand je veux quelque chose de sérieux, je lis Corto Maltese. Voilà. Bien.
Mais on voit bien comment toute cette génération, et ce sera, bon, ça peut être, c'est Italo Calvino par exemple, c'est Dario Fo pour le théâtre, c'est Fellini bien sûr, c'est un peu plus tard Ettore Scola, etc. Si vous regardez par exemple ou re-regardez une journée particulière d'Ettore Scola, on voit que quand Sophia Loren nettoie un peu l'appartement après le départ des mâles jeunes et plus grands pour aller acclamer Hitler, elle met le pied dans les choses à nettoyer sur une bande dessinée.
D'accord. Donc, on disait les anglo-saxons, on aurait pu dire aussi l'Odyssée. D'ailleurs, il a illustré l'Odyssée, Hugo Pratt, une version personnalisée de l'Odyssée. Il a encore la mer, on y revient toujours. Il y a Venise, c'est la mer, c'est quelque chose d'essentiel dans la manière d'aborder et le monde, et la culture, et la création.
Oui, c'est le passage un peu oublié du roman ou du récit d'aventure. Et puis on n'échappe pas ou difficilement à Venise. La mer, il l'avait vue aussi. Même si c'est pas dans, bah c'est pas des conditions aventureuses particulières, ne serait-ce que pour se rendre à 10 ans, ça l'avait quand même beaucoup marqué, prendre le bateau pour rejoindre l'Éthiopie par le canal de Suez, etc. Puis le retour en évacué civil après fin 42, en 43, pour revenir à Venise. Puis le bateau qui va reprendre, il a plutôt pris des transatlantiques en quelque sorte que traverser l'Atlantique. À la voile, mais quand même la mer est présente par Venise, par ses voyages et par ses lectures et par le cinéma.
Les lectures, ce sont aussi les poètes. Vous signaliez tout à l'heure que son grand-père maternel lui-même était poète. Il le cite
en Sibérie,
dans Corto Maltese en Sibérie, dans la version italienne.
Oui, qui est exposé, qui est dans l'exposition.
Qui est dans l'exposition, parce que lorsqu'il a fallu faire la version française, il a choisi un poète français.
Bah, on a un peu choisi pour lui, enfin pas on, c'était pas moi, mais plutôt de parler de Rimbaud, parce que Eugenio Gennaro, poète vénitien en vénitien, c'est, même si c'est quelqu'un, alors je suis un peu intéressé aux publications et où publiait Monsieur Eugenio Gennaro, c'est des revues un peu marginales mais reconnues quand même. Il a une véritable reconnaissance, le grand-père, comme poète vénitien en vénitien, que Hugo considérait du reste non pas comme un dialecte mais une langue.
Vous verrez aussi dans l'exposition, et on le lit dans toutes les aventures de Corto Maltese, qu'il cite d'autres poètes, Coleridge, des poètes persans. Il adore ça. Autant que Stevenson pour ce qui est de l'aventure, par exemple.
Stevenson étant... il disait souvent aussi que le livre offert par son père au moment où lui-même va disparaître, le père de Hugo, prisonnier après la défaite italienne, a été L'île au trésor, tout Stevenson. Quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'au moment même d'être emmené par les soldats anglais, ce serait le dernier geste ou l'un des derniers gestes du père d'Hugo Pratt de lui offrir l'île au trésor pour, comme passage de témoin, comme témoignage.
Et l'un des derniers gestes d'Hugo, en quelque sorte, a été d'aller dans le Pacifique à la recherche de la tombe de Stevenson. Et quand il fait cette aquarelle qui est là, par exemple, c'est une connaissance assez fine de Stevenson, parce que quand on voit pour Fanny, c'est les la fameuse épouse de Stevenson, elle-même peintre qu'il rencontre, enfin, le grand amour de sa vie. Et le navire qu'on voit là, qui semble, la goélette qui est là, qui semble un peu banale en quelque sorte, correspond très précisément à la goélette de Stevenson dans le Pacifique. Donc on a l'impression de quelque chose qui est fait un peu comme ça, à la rapidité de l'aquarelle, mais c'est très documenté.
Elle se trouve où, la tombe de Stevenson ?
Dans, à Pierre, dans l'une des... Alors, je l'ai... On l'a pas pris. Oui, non. c'est ça, à Pierre, dans les Samoa. Oui. Nice. La capitale des Samoa, où justement, il est renommé comme le raconteur d'histoires aussi, Stevenson, qui va défendre aussi une partie de la population de l'île dans des situations un peu compliquées du passage entre la domination allemande et la présence anglo-américaine.
Il croise aussi, Cortot, des écrivains. Il ne fait pas que les citer. Est-ce que vous avez en mémoire des écrivains qui, dans ses aventures, qu'il pourrait croiser ? Je crois me souvenir que Gabriele D'Annunzio.
Oui, alors là on va. Ben, on
doit oui, avoir, on verra oui, après, on mais verra c'est pas après. Grave.
Mais oui, on a le. On va retrouver Venise avec D'Annunzio. Alors D'Annunzio, qui était, il le disait lui-même, et ça historiquement, c'est prouvé, était en lien avec son grand-père, le poète vénitien. Et ça explique du reste l'un des dialogues qu'on retrouve dans Fable de Venise, où on voit des jeunes fascistes presque s'en prendre à...
On va les trouver, à D'Annunzio. Même en allant un peu vite, alors, on reviendra en arrière après. Je suis allé trop loin ? Non, je crois pas.
Non, mais on va se balader.
On se balade. Nous l'avons mis dans la séquence où nous devrions voilà, aborder les... C'est dans cette...
Je vois après, juste... Voilà.
Voilà, effectivement.
Oui, on voit qu'il y a une discussion entre ces jeunes fascistes et D'Annunzio qui reflète quelques tensions et qui s'explique parce que, alors en deux mots, D'Annunzio, comme vous le savez peut-être, va monter une expédition vers Fiume, c'est-à-dire cette partie de l'Istrie réclamée par l'Italie après le traité de Versailles. D'Annunzio et ses volontaires vont occuper avant de devoir évacuer et avant que l'Italie, y compris l'Italie mussolinienne, par le traité de Locarno, accepte que ce territoire devienne une partie intégrante de la Yougoslavie et ne soit pas intégré, les fameuses qu'on appelait les provinces irrédentes, sera intégré à l'Italie. Donc il y a une partie des fascistes italiens qui vont refuser cet accord et en vouloir à D'Annunzio d'avoir cédé à cette demande diplomatique en quelque sorte. Ce qui fait qu'il va y avoir, et c'est l'intelligence et la connaissance fine qu'avait Pratt de ce moment de l'histoire de Venise, elle se retrouve dans cette planche qui peut sembler comme ça presque banal, mais qui reflète des tensions à l'intérieur même des fascistes de Venise, entre ceux qui disaient il fallait rester à Fiume et quitte à affronter le reste de l'Europe, d'autres qui disaient ben non, on ne pouvait pas diplomatiquement, et puis une partie au centre qui va finir par rassembler tout le monde et faire que le grand-père de Pratt, qui passait du reste, il a jamais, de ce que j'ai pu retrouver comme document, n'est jamais passé pour un fasciste particulièrement virulent. Il était, j'ai retrouvé l'expression, il passait plutôt pour un doux rêveur, quoi. Hein, le poète qui aimait bien s'habiller en fasciste, mais qui n'était certainement pas le plus déchaîné pour faire avaler de l'huile de ricin aux adversaires.
Alors je vais remonter nos images pour qu'on puisse reprendre notre récit, mais pendant ce temps, peut-être de nous parler, on a vu l'importance des écrivains, des écrits, des références, l'Odyssée, mais on aurait pu aussi dire tout ce que comptent les contes et légendes, les textes ésotériques, les textes sacrés, tout ça. C'est incroyable tout ce qu'on croise comme texte dans Corto Maltese.
Oui, c'est un grand parcours qui arrive parfois chez les autodidactes. L'un des secrets vraiment, je pense, d'Hugo Pratt, c'est que c'est un véritable autodidacte. Alors, il a une scolarité primaire, en quelque sorte, à peu près normale. Il a une année de lycée avant de gagner un autre lycée à Addis Abeba, mais c'est une scolarité qui a laissé une grande part à la liberté, qui n'est pas encadrée de manière véritable, c'est le cas de le dire, de manière scolaire. Donc c'est le développement d'une incroyable curiosité. Alors la curiosité littéraire, la curiosité des images, la curiosité de tout ce qui peut être aussi, même si après il va reconstruire une partie de son enfance, tout ce qui est légende, tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est antiquité, mais plutôt les Grecs que les Latins, hein, d'où l'Odyssée, la culture, classique, j'allais dire, des deux grands-parents se retrouve aussi. Mais il a toujours été beaucoup plus grec que romain, en tout cas devenu adulte, quoi. Rome étant trop liée au côté un peu ridicule du fascisme, alors que la Grèce l'était beaucoup moins.
Et tout ça va se retrouver dans sa bibliothèque, parce que Pratt était connu pour avoir une bibliothèque particulièrement fournie, c'est peu de le dire. On parle de 17 000, 20 000, plus de 20 000 volumes chez lui, notamment à Granvaux où il a fini sa vie. Bibliothèque qui a été léguée, qui aujourd'hui est en Suisse toujours et devient un lieu de consultation dans un lieu assez incroyable qui est le Villars Palace.
Oui, c'est à Villars-sur-Ollon, en Suisse, le Villars Palace, qui est effectivement un palace invraisemblable, qui date de la fin du 19e, qui à un moment a été...
C'est un peu le Budapest Hôtel, hein,
oui, c'est un peu
ceux
ça.
qui veulent visualiser.
C'est exactement ça. Mais c'était l'un des plus gigantesques palaces de la fin du 19e, avec des conditions de séjour absolument extravagantes. Un temps, ça a été le Club Med, et là, des investisseurs locaux. Villars étant l'une des capitales de la Suisse pour les grands collèges internationaux, avec des prix de scolarité qui permettent à un certain nombre de personnages sur place de s'être constitué des fortunes, disons. Et là, il y a eu un investissement au Villars Palace. Et le Villars Palace, dans ses salles de séminaire, dans ses salles de colloque, a des grandes bibliothèques dans lesquelles se retrouve aujourd'hui la bibliothèque de Pratt.
Mais donc, correctement sera ouvert... archivé, ah, avec oui. Côté, on peut tout retrouver.
On peut tout retrouver. Tout a été... on a rangé,
Vous
classé.
Avez participé à ça ?
Oui, c'était assez émouvant, du reste, parce qu'on trouve, par exemple, un moment sur un livre l'adresse et le numéro de téléphone de Milton Caniff,
grand auteur de bande dessinée.
Et on trouve aussi pas mal de bouquins qui remontent à la période où il se trouvait en Éthiopie, mais des livres qu'il a rachetés par la suite, par exemple des manuels scolaires, des livres de lecture, des guides, parce que la présence italienne en Éthiopie, en Érythrée, également en Libye, s'est accompagnée de publications qu'on a un peu oubliées aujourd'hui, mais quasiment des vrais guides bleus de l'Éthiopie, donc qui sont là dans ce qu'a récupéré par la suite Hugo, avec aussi beaucoup d'atlas, beaucoup de livres de cartes, une bibliothèque complète aussi sur la franc-maçonnerie, par exemple. Donc tout est là dans des pièces différentes et accessibles aux chercheurs dans des conditions qui vont... Alors, les chercheurs ne sont pas obligatoirement logés dans les suites du palace, mais ce que nous avons vu des conditions sont très honorables pour ceux qui viendront y travailler. Mais là, au moins, c'est une bibliothèque préservée, protégée et qui va devenir accessible aux chercheurs.
Vous évoquiez la franc-maçonnerie. Il avait été initié. Il avait un goût très fort pour le symbolisme, pour tout ce qui était justement ces recherches discrètes, ces liens de fraternité souterrains. Il adorait ça. Et on le retrouve dans Corto Maltese et notamment dans Fable de Venise, où notre ami Corto Maltese fait rien moins que s'enfuyant sur les toits de la ville, passe à travers le toit et tombe en plein milieu d'une tenue d'une loge maçonnique. Dernier mot peut-être sur ce aspect littéraire. Un de ses derniers travaux, enfin un travail tardif, fut autour de Saint-Exupéry.
Oui, Saint-Exupéry, le dernier vol dont on voit ces magnifiques aquarelles, est un travail de commande. Et comme souvent, quand il y a comme ça des travaux de commande avec des contraintes, par exemple, l'une des contraintes était pour Saint-Exupéry, pour des raisons de droit d'auteur, de ne pas trop évoquer le Petit Prince, par exemple. Donc, il y avait un certain nombre de contraintes, et de ces contraintes, comme beaucoup de créateurs, il a fait une force. D'ailleurs, je trouve que c'est l'un des plus belles albums, de plus belles créations. C'est un vrai chef-d'œuvre pour moi, le dernier vol Saint-Exupéry, où Hugo, bon, c'est le hélas à la fin de sa vie, mais là il a la liberté totale, quoi. Il dans ses aquarelles, dans ses récits, cette manière de mêler le temps et l'espace qui lui est parfaitement propre, parce que il décrit parfaitement la manière dont Saint-Exupéry va disparaître, attaqué par deux avions allemands. L'avion est bien celui de Saint-Exupéry, il est bien en liaison avec la base de Bastia, puisqu'il est parti de Corse. Puis tout d'un coup, on se retrouve en Amérique latine. On a les différents personnages féminins qui ont joué un grand rôle dans la vie de Saint-Exupéry. On le voit aussi un moment, quand il va en Espagne, au début de la guerre d'Espagne. Bon, il évoque Malraux. Ils n'ont pas pu se rencontrer à cette époque-là, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais arriver dans ce récit avec un graphisme extraordinaire, Hugo, personne n'a jamais dessiné des nuages comme Hugo Pratt a dessiné des nuages. Ça semble tout simple de dessiner des nuages, mais là, on les retrouve. C'est un album absolument magnifique, avec plusieurs registres de lecture, une invention permanente, tant dans le graphisme que dans les personnages, même si ce sont des personnages qui ont réellement existé.
Vous avez souhaité intituler la séquence suivante de cette conversation où il est question de double et d'ombre. Alors là, je voudrais en savoir un peu plus.
On retrouve ça chez d'autres auteurs, hein, chez Borges par exemple, mais c'est vrai qu'il y a chez Hugo en permanence un jeu sur le double. On le voit bien dans cet extrait
de la
ici,
maison dorée de
Samarcande, où Hugo a... Enfin, pardon, oui, évidemment, comme d'habitude.
Corto,
avec le personnage qui s'appelle Chef Quête, se retrouve avec son double, un peu maléfique, comme Rasputin est un double, mais sauf que Rasputin, c'est pas le même physique que Corto, tandis que là, le méchant et le bon, en quelque sorte, enfin le bon, ils sont vraiment doubles. Et Hugo, dans la réflexion sur le double, il y a la réflexion sur l'ombre. Il y a vraiment tout un discours graphique et presque un discours philosophique sur l'ombre. On voit que quand on perd son ombre, eh bien on peut disparaître aussi. C'est très mauvais signe. Donc il y a quelque chose qui revient.
On voit effectivement les ombres qui s'allongent
et qui
s'en vont.
On voit toute cette dualité chez... y compris dans le personnage de Corto, qui est non seulement double mais triple, qui est à la fois totalement indifférent à ce qui peut se passer, puis qu'on qualifierait aujourd'hui de terroriste parce qu'il laisse une bombe dans l'un des épisodes au siège de la police britannique en Irlande, ce qui est quand même aujourd'hui ferait hurler peut-être la censure ou je ne sais qui, mais tout est comme ça, quoi, dans cette y compris on le dans Tango et d'autres, en permanence, en filigrane, c'est une réflexion sur le double, l'ombre, ce qu'on peut laisser, ce qu'on peut rencontrer, ce qu'on peut affronter.
Un mot de Rasputin.
Ah bah oui, là, d'un point de vue historique, c'est parfait ce que dit Rasputin, hein, le compositeur italien, le ballet de Petit Pas, vous retrouvez ça, y compris la musique qui donnera naissance du reste à une chanson diffusée dans le monde entier, vous retrouverez ça aussi sur Internet. Et alors j'aime bien aussi là, l'image du haut, parce que ça me fait penser à la fin de Zorba le Grec. En fait, on est en Sibérie, mais on est en Grèce aussi.
On danse le Sirtaki.
C'est le Sirtaki. Et donc, c'est toujours ça aussi, la fantaisie de Hugo. Je pense évidemment qu'il a pensé à Anthony Quinn quand il représente Corto et Rasputin dans le grand désert glacé. C'est le duo improbable, impossible, le jeu qu'il avec le dialogue. Ça lui donnait des possibilités formidables entre... en ayant ces deux personnages dès la balade pour la mer salée, de la balade de la mer salée, ils pouvaient continuer sur les albums qui vont suivre.
Discutant avec un autre auteur de bande dessinée, Fred Bernard, qui est un grand fan de Corto Maltese et de Pratt, il me dit ce qui est formidable avec Rasputin, c'est que on a là deux Italiens, Corto et Rasputin, deux Italiens d'aujourd'hui. Ils se rencontrent, ils se retrouvent dans Corto Maltese en Sibérie, et la première chose qu'ils se disent, c'est « Ah, t'es bien habillé, toi !» On est là tout d'un coup avec deux gars qui parlent chiffon plutôt que de faire le coup de poing. C'est quand même assez étonnant. Et Corto Maltese qui est toujours bien mis, et Corto Maltese qui est toujours très propre.
Ah, toujours, on va le voir. C'est quand même, j'ai pas tout à fait repéré le nombre de fois où Corto Maltese prend des bains, mais c'est le plus propre de la bande dessinée. Oui, et puis il est quand même très. D'abord, c'est quand même un pirate entre guillemets, mais qui a toujours des papiers en règle. Dans toute l'œuvre de Pratt et tous les albums de Corto, il est contrôlé trois fois par des polices différentes et les papiers sont toujours en règle. Et ce qui est amusant, ça correspond à une phobie qu'avait Pratt d'avoir des papiers en règle. Dès qu'il y avait une frontière à traverser, il supportait mal, il avait une forme de phobie et d'angoisse. Du reste, il y a des papiers qu'il n'a jamais eu. Par exemple, il n'a jamais passé le permis de conduire. Donc, quand il devait passer d'un endroit à l'autre et passer une frontière, il s'inquiétait toujours que les papiers étaient parfaitement en règle. Et on a donc Corto Maltese, il a passé ça à Corto Maltese, il y a trois vignettes où il est contrôlé. Alors on voit qu'il est né effectivement à Malte, qu'il réside à Antigua, ce qui me laisse supposer du reste que Corto Maltese a une fortune considérable. Parce qu'il est résident à Antigua dans les Antilles britanniques, mais il y a aussi la maison de Hong Kong. Et la maison de Hong Kong, quand on regarde dans les détails, c'est une très belle maison. Très luxueuse, avec un piano à queue. Donc c'est un aspect de Corto Maltese qu'on ne connaissait pas. Avec aussi une collection de peintures. Alors il y a un Gauguin qui a été volé par Rasputin, mais il y a visiblement un Modigliani aussi dans la maison. Et surtout, la maison est gardée à l'année et entretenue à l'année par un couple qui est à son service quand même. Et alors on n'a jamais su quelle était la propriété d'Antigua dans les Antilles britanniques, mais ça devait être pas mal non plus.
Lequel Corto devait sa fortune sans doute à quelque acte de piraterie, mais entre les albums, puisque finalement à chaque fois que nous on le voit mener une aventure, ça se termine toujours, finalement le trésor est ailleurs, c'était la recherche du trésor qui comptait, ce n'était pas le trésor lui-même.
Oui, il y a des revenus occultes.
Vous disiez qu'il voyageait beaucoup, où il est question de masques, de sagaies, de têtes réduites également, par exemple. Il y a dans les références de l'œuvre de Pratt, et notamment dans Corto Maltese, tout cet aspect ethnographique très fort, immense.
Oui, lui-même, Hugo, n'était pas collectionneur de ce qu'on a appelé à un moment les arts premiers. Il n'y a jamais eu, de masques, quelle que soit leur provenance. Mais dans toutes les aventures de Corto Maltese, on a cette présence, d'où j'ai retiré cette vignette des Éthiopiques, où Corto Maltese, qui apparaît, lui, par contre, comme un collectionneur d'art premier, tu veux me vendre ton masque. C'est ce qui nous a donné l'idée de l'exposition il y a quelques années à Lyon, puis ensuite à Bordeaux, de mettre en regard l'œuvre de Pratt avec des objets d'ethnologie venant du monde entier, avec des il prenait ces modèles, si on voit la suivante par exemple, oui, bon, c'était parfaitement documenté par des catalogues d'exposition, par des revues savantes, donc c'était toujours très bien fait dans le détail, mais même. Par contre, il faisait des choix graphiques en mêlant des masques qui, obligatoirement, ne venaient pas de la même provenance que de telle partie du Pacifique avec telle autre. Et donc, évidemment, quand on a un tel matériau et qu'on peut faire appel aux collections des musées français, ah oui, on peut revenir même sur la précédente, ben c'est un vrai bonheur de faire une exposition de ce type. La seule chose qu'il avait, et on la voit dans cette photographie qui était chez lui. C'est un scaphandre, un grand scaphandre d'origine russe qu'il avait acheté à Lausanne et qui renvoie à ce qu'il racontait, que ça a été en quelque sorte son premier dessin. Alors parfois il dit que c'est sa grand-mère avec qui il était, parfois c'était avec son père. Il voit sortir un scaphandrier de la lagune de Venise, comme il commençait déjà à dessiner, son père, selon les versions, ou sa grand-mère, selon une autre version, lui a dit « ben, écoute, dessine ». Et d'où ce rond, cette tête de scaphandrier qu'on retrouve, par exemple, au début de son dernier album de Cortot, dans Mu, où Cortot fait cette descente en scaphandre.
Mu également, on voit ce que vous apercevez au centre, cette grande tête. Je ne sais pas où elle était. Comment le lion le musée des Confluences a-t-il pu récupérer cette tête extraordinaire ?
C'est un faux. Ce sont des non, il y a des grandes œuvres comme ça qui sont
parce que
des,
ça c'était immense,
qui sont énorme. des têtes, une tête Olmec à Bordeaux. On avait aussi, enfin pas à Bordeaux, plutôt à Saint-Palais à côté de Royan, on avait récupéré de Bordeaux aussi un grand moai en résine. Donc on avait un moai sur la côte atlantique qui regardait le phare de Cordouan. C'était très bien. Je pense que Hugo aurait apprécié ce genre de choses. Ou bien sûr, alors là, c'est une planche de référence où on voit Rasputin dans son bureau avec, en l'occurrence, ce qu'on appelle un masque Kfat de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est là et qui lui-même alors est un objet graphique formidable. Si Hugo représentait avec tant de bonheur toute cette culture-là, toutes ces civilisations, c'est qu'il y a une force graphique formidable aussi dans tout ce qui est là.
Donc on a pris quelques photos encore parce qu'il y a eu donc ligne d'horizon également à Bordeaux. Vous avez été clairement
Là c'est justement, alors c'est un type d'exposition qui fonctionne bien si les musées concernés ont eux-mêmes des collections, que beaucoup de musées français ont. Là, ce grande statue africaine, elle est propre au musée d'Aquitaine à Bordeaux, mais on a retrouvé, évidemment, parce qu'on retrouvait beaucoup de choses chez Pratt permettant d'instaurer ce dialogue. D'accord. Ou encore, alors parfois Hugo mettait dans ses dessins ou dans ses aquarelles des statues qui étaient des fausses statues. Là, celle-là n'existe pas vraiment sur la gauche, mais reprend un bas-relief en fait de Koudlich en pays maya.
Et de ces références, de ces échos, de ces mouvements d'aller-retour entre la réalité et l'œuvre de Cortot, vous avez quelques anecdotes. Que nous dit cette photo ?
Oui, alors, quand on s'intéresse à Hugo Pratt ou quand on a eu l'occasion de le connaître ou de le fréquenter, il y a des choses étranges qui arrivent parfois. Quand je me suis occupé donc de Cortot Maltese Mémoire, je suis passé, mais très rapidement, à la Fondation Albert Kahn pour chercher. Je cherchais
qui est à Paris, donc à Boulogne. Vous pouvez y aller. Il y a une collection extraordinaire de photos du monde entier, puisque Albert Kahn avait fait documenter par ses équipes tout ce qui se passait dans le monde entier à l'époque, c'est-à-dire nous sommes dans les années...
Fin 19e, où Albert Kahn, effectivement, banquier à une certaine fortune, fin 19e, début 20e, envoie ses équipes photographier les archives du monde, en quelque sorte. Et donc, avec des autochromes, à fond absolument incroyable. Donc je suis passé, mais ça il y a 35 ou 40 ans, hein, pour prendre une photo dont j'avais besoin pour parler de Cortot Maltese à Venise. Et donc, les photos étaient mises exactement comme ça sur la table. Donc, j'en ai pris une parce que j'ai vu le haut de la photo que vous voyez là, typiquement architecture vénitienne. J'avais besoin d'un immeuble vénitien. Et donc, j'ai donné la maquette chez Casterman. Le bouquin est sorti. Et puis, j'ai une amie qui m'a appelé et qui m'a dit, c'est pas mal, vous voyez les photos intéressantes. Puis alors là, le trucage avec Cortot Maltese dans la photo de Venise, c'est bien. Quel trucage ? Eh bien, entre le moment où j'avais choisi la photo et l'impression, comme vous le voyez sur l'écran, j'avais absolument pas vu qu'il y avait un personnage en bas de l'autre côté du pont qui ressemble vraiment à la silhouette de Corto Maltese. Donc j'ai appelé Hugo en lui disant « tu vas à la page machin » et il m'a dit « oui, là, ça, il est resté un petit peu sans voix ». Et bon, c'est des choses qui arrivent. Après, on s'étonne même plus, hein. On se dit et puis...
Connaissez le professeur Steiner ? Si vous avez lu Corto Maltese, vous voyez peut-être ce personnage de petit professeur érudit, un peu falot avec ses cheveux, sa grande moustache et sa barbe. On le voit d'ailleurs dès les premières aventures de Corto Maltese. Et là, nous sommes à Bordeaux.
Oui, à Bordeaux, donc, on commence à préparer l'expo et l'un des conservateurs du musée d'Aquitaine à Bordeaux me dit « Mais tiens, je crois qu'on a la tête réduite de Steiner dans nos réserves. » On descend dans les réserves et effectivement, ça c'est une photo que j'ai prise, on trouve la tête réduite de Steiner dans les réserves du musée.
Alors, il faut le dire quand même.
Oui, alors il faut le dire, c'est, j'allais dire... Bien sûr, une fausse tête réduite. Parce que pour ceux qui connaissent parmi vous les têtes réduites, Givaro remarqueront tout de suite que cette tête est en fait une tête de singe réduite, où on a collé des vrais cheveux. Mais c'est une vraie fausse tête, c'est-à-dire elle a vraiment été fabriquée au Brésil.
Par des Givaro.
Ou équivalent. Et achetée au début du XXe siècle par un Bordelais qui l'a gardée chez lui. Et qui est mort, et sa veuve était terrorisée. Elle ne savait pas si c'était vrai ou faux. Donc elle l'avait mis dans un coin. Enfin bon, c'était.
Avec des bougies.
Enfin bon. Elle avait une trouille monstre de cet objet. Elle a donc appelé le musée pour savoir si ça intéressait le musée. Mais ça, c'était dans les années 70, quoi. De 1970-1980, je crois, ou un peu plus tard. Donc, bon, c'est un objet qui pouvait toujours intéresser le musée d'Aquitaine, qui en a fait l'acquisition gratuitement. La dame se débarrassait de ces objets. Comme tous les objets des réserves dans les musées, ben, ça a été mis dans un carton. Et puis, un conservateur s'est souvenu, quand on a préparé l'exposition, qu'on avait la tête réduite de Steiner. Évidemment, pour les visiteurs qui connaissent le professeur Steiner et qui sont venus dans l'expo, c'est un objet formidable parce qu'on l'a mis exactement dans les conditions. Vous le retrouvez sur cette image. Le dessin de Pratt, alors là, évidemment, je pense que s'il avait pu connaître cette rencontre, ça aurait été aussi... Mais moi, j'étais même plus étonné. On me présenterait je ne sais quoi. Bon, ben, on finit par s'habituer à ce genre de rencontre improbable entre Corto Maltese qui se glisse sans qu'on y pense dans une photo de Venise et puis la tête réduite de Steiner qu'on
et
retrouve
enfin...
dans un musée. Alors ça, c'est au moment où on préparait l'exposition de Bordeaux. Le conservateur cherchait un article sur les cartes maoris. Les maoris avaient des cartes à travers le Pacifique faites de grandes lignes de bambou qui désignaient des directions et d'autres. On savait qu'il y avait un article savant dans une revue qui nous permettait de documenter l'objet pour l'exposition. Donc il y avait une pile de bouquins bien plus haute que celle-là, où on cherchait, enfin il cherchait, j'étais pas là. Et puis à un moment, la pile est tombée exactement à l'endroit où il y avait la photo de la carte et l'article en question. On avait pu se poser à repartir sur des journées de travail. La pile était tombée et c'était ouverte là, juste sur la revue parlant de cette carte maori.
Voilà pour les anecdotes. Nous avons eu envie de parler également où il est question d'uniforme et donc d'une enfance marquée par la guerre. Ceux qui ont lu Pratt, Corto Maltese, mais pas seulement, mais aussi par exemple Les Scorpions du désert, évidemment, mais aussi Fort Wheeling, voient avec quelle gourmandise Hugo Pratt gère sa passion des uniformes et des costumes. Ce tropisme militaire lui vient peut-être en partie de cette enfance. Il avait quel âge quand il est arrivé en Éthiopie ?
Il a 10 ans. D'abord, il vit dans un monde, celui on en parlait précédemment, celui des jeunes fascistes où l'uniforme est roi. ce qu'on met dès l'âge de 7 ans ou 6 ans, et ensuite quand on continue jusqu'à l'armée, les chemises noires et tout ce graphisme de l'uniforme qui va beaucoup le marquer. Alors ce qu'il racontait aussi souvent, c'est qu'il a été frappé par aussi l'uniforme de l'armée britannique. C'est-à-dire quand il va passer le canal de Suez, du bateau où il est, il va voir sur la rive, il en parlera souvent, un camp anglais parfaitement organisé, aligné, avec un soldat britannique en kilt menant la garde par 40 degrés à l'ombre et tenant, comme on voit, ce marin de mal. Donc quand il a fait, par exemple, les dessins sur la vie de Corto Maltese, quand il représente ici le petit Corto là, qu'on voit en bleu, il le met aussi avec un costume d'un soldat britannique, avec un goût réel. Mais je pense que aussi ce qu'il voyait dans l'uniforme, c'était le côté graphique. Voilà, à la fois le côté des couleurs, le côté symbolique, hein, et puis le côté graphique. Et,
sont ces deux personnes que nous voyons désormais ?
Alors là, sur la photo, c'est la photo qui est assez connue, que Hugo montrait assez souvent. C'est lui-même avec son père dans la période de la guerre à Addis Abeba, où son père appartient à ce qu'on appelle la police coloniale italienne en Afrique orientale. Donc il a le costume, et Hugo racontait qu'il a été recruté lui-même à l'âge de 13 ans dans cette police, ce qui expliquait il disait qu'il avait été le plus jeune soldat de l'armée italienne. Je suis pas complètement convaincu, mais ce qui m'intéresse, c'est le lien entre cette photo que Hugo montrait facilement, qu'on a sur la droite, et puis cette affiche de la même époque d'une nation devenant militaire, où on a là aussi l'adulte et l'enfant, comme Hugo et son père vont se représenter. C'est toujours cette imprégnation qu'on reçoit dans l'enfance, qu'on poursuit dans l'adolescence et qu'on garde par la suite.
Ça m'amène, on a une semaine des élections, on va parler politique un peu. Dans les années 70, quand on découvre La Ballade de la mère Salée, qui est éditée chez Casterman en 75, si ma mémoire est bonne, et que tout d'un coup on découvre là ce grand récit, et que les adultes, après avoir découvert dans Pif quelques histoires, là on découvre vraiment l'univers, ce roman graphique énorme, cette littérature dessinée, comme disait Pratt. Le caractère même de Corto, qui est indépendant, généreux, mais distant, et ce goût des uniformes qu'on voit partout, dans les années 70 en tout cas, il y avait un débat. Corto Maltese est-il de droite ou de gauche ? Et selon vous, qu'en est-il ? Et notamment, qu'en est-il de Pratt ?
Ah oui, il y a eu un débat. Enfin, il y a eu une forme de discussion. Elle a même été traitée dans un fanzine de vieux fascistes honteux. Donc c'est évidemment totalement absurde. Alors quand on parlait politique avec lui, il racontait que quand il a arrêté de faire Corto Maltese dans PIF, c'est que PIF, c'est Vaillant.
Et Vaillant, c'est communiste.
C'est le Parti communiste français. Donc, il a en quelque sorte, sa collaboration s'est arrêtée parce qu'on trouvait que finalement, Corto Maltese était beaucoup trop libertaire pour un hebdomadaire communiste pour enfants. Donc il aime bien raconter ça. En fait, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que la collaboration de Hugo Pratt avec PIF s'est arrêtée parce que la publication de Corto Maltese dans PIF ne faisait gagner aucun exemplaire supplémentaire, mais en faisait même en perdre. C'est-à-dire, on a toujours caché, par exemple, à Hugo, quand il travaillait dans PIF, que son personnage de Corto Maltese était le plus bas dans les référendums des jeunes lecteurs. C'était toujours Rahan, Docteur Justice. Les jeunes lecteurs de PIF, une bonne partie d'entre eux ne comprenaient rien aux histoires de Corto Maltese. Du reste, c'est assez frappant que sur 3 ans de collaboration, jamais PIF n'a fait une couverture avec un Corto Maltese. Et en fait, c'est un départ économique. C'est-à-dire que Corto Maltese ne faisait pas vendre. Donc, on s'est débarrassé de Corto Maltese.
Et pas pour revenir à ma question, Pratt lui-même.
Alors, Pratt lui-même, il aimait bien cette idée-là de libertaire. Il a quand même fait aussi, à un moment, il y a eu une grande exposition qui a circulé partout en Italie, particulièrement dans les milieux scolaires, sur la bande dessinée antifasciste, ou le etc. Et il a fait l'affiche, en quelque sorte, de cette exposition, où il est très clairement marqué, écrit « No al fascismo ». Mais il y a toute une ambiguïté sur l'affiche. C'est dommage qu'on ne l'ait pas, parce que c'est écrit « No al fascismo » et on voit foncer sur nous quelqu'un avec un béret, Jean Che Guevara, mais qui nous fonce dessus. Mais qui nous fonce dessus dans l'esprit « No al fascismo » pour nous défendre du fascisme. Mais on ne comprend pas tout de suite quand on voit l'affiche. Donc Hugo était quand même, effectivement, on n'aurait jamais, enfin bon, il suffisait de l'entendre sur la démocratie chrétienne ou les débuts de Berlusconi ou d'autres pour savoir qu'il se situait plutôt à gauche de l'échiquier italien, mais comment dirais-je, bon, il avait une forme de détestation malgré tout profonde sur l'Église, par exemple, hein, qui traitait de grande putain, etc. Donc ça, il n'était pas franchement démocrate chrétien. Il disait lui-même qu'il avait voté deux fois communiste dans sa ville. Il avait soutenu quand même la législation sur le divorce, etc. Donc c'était un homme de progrès, on va dire, mais évidemment pas raciste pour un sou, ni non.
C'était... Quant à Corto, trop libre pour être militant quelque part, et même quand on le croise dans les Celtiques, tous les militantismes,
les Celtiques,
ils s'en méfient, quoi.
Oui, mais enfin, comme on le disait, quand même, de là à faire sauter l'état-major anglais à Dublin, c'est pas franchement là, c'est un acte quand même. Et y compris montré dans une revue pour enfants, en laissant les gens à l'intérieur et en laissant la dynamite faire son effet. Ce serait assez curieux de voir ce genre de choses pour enfants aujourd'hui.
Je passe un peu pour voir effectivement les différents costumes, les différentes... Là, nous avons évoqué tout à l'heure... revoir cette page de Fable de Venise avec ces jeunes fascistes. Vous disiez que les grands-parents de Corto étaient de classe moyenne supérieure, avec quelques biens, une haute culture. Le père, lui, est devenu militaire, mais pas en plus au gradé, pas officier.
Oui, alors il faut... Je pense que là, il va falloir travailler sur vraiment retrouver les archives sur Rolando Pratt, qui semble-t-il a participé à la marche sur Rome, quand même, donc, et va prendre l'uniforme. Mais j'ai du mal à savoir exactement, précisément, sous quelle forme. Alors, quand il part en Éthiopie, c'est plus clair, mais il semble qu'il ait participé aussi à un moment à l'assèchement des marais pontins, l'une des grandes œuvres du fascisme italien, là aussi déjà sous l'uniforme. Ça reste encore un peu flou, tout ça. Enfin, toutes les photos que l'on voit, en tout cas, que l'on a de Rolando Pratt, il est en uniforme. Donc, il a rejoint telle ou telle partie de l'Italie sous l'uniforme, mais dans quel régiment, dans la police coloniale en Afrique orientale, ça c'est clair, il a été. Mais précédemment, il y a encore des choses à trouver. Mais on a quelqu'un qui, avec Rolando, qui s'engage dans le fascisme militant et militaire, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il le fait par conviction? Est-ce qu'il le fait parce qu'il faut trouver un boulot, faire vivre la petite famille, bon, même s'ils sont peu nombreux, Hugo restera fils unique et les parents sont mariés très jeunes en plus. Donc voilà, je ne saurais pas dire plus pour le moment jusqu'à ce qu'on arrive à travailler sur retrouver les traces militaires de Rolando Pratt. C'est pour ça aussi que, quand même, attaché à son père, bien évidemment qu'il perd jeune quand même. Hein. Il a 14 ans, quand, 13 ans quand il perd son père, dont il voyait bien aussi qu'à l'intérieur de ce fascisme, tant à Venise qu'en Éthiopie, il y avait tout, n'importe quoi, et le contraire de tout. C'est pour ça que, en particulier dans Les Scorpions du désert, il y a des figures de militaires fascistes qui sont loin des caricatures.
Vous avez souhaité intituler la dernière séquence de notre conversation autour de l'épure et du silence. Pourquoi ?
Parce que c'est assez frappant dans la bande dessinée. La bande dessinée est souvent bavarde. Or, Hugo comprend dès le début, dans ce qu'il fait, que la bande dessinée vaut aussi par ce qui n'est pas montré, c'est-à-dire le blanc entre deux cases où on reconstitue l'histoire. Et il n'est pas nécessaire d'avoir, si je prends la première vignette, Corto Maltese ouvre la porte. Bon, ça va, on le voit, etc., etc. Donc, il va y avoir de plus en plus dans le talent de Pratt un graphisme de plus en plus épuré, et puis des histoires qui se passent de mots. C'est pas nécessaire. Et puis là, on retrouve
lui pourtant qui était si nourri de mots et d'écrivains.
Oui, et puis qui pouvait lui-même être prolixe et adorer raconter des histoires, et puis d'autres fois être silencieux. Mais en fait, là aussi, sur cette... Qu'est-ce qu'il y a d'aventureux dans cette planche, quoi ? On voit quelqu'un qui rentre, qui va prendre le bain du soir, parfois c'est la douche, qui va se coucher et qui va lire. Bon, il est dérangé par un coup de téléphone. Et on en fait une planche entière. C'est pathétique. Sauf que c'est absolument sublime parce que c'est fait par Pratt, mené en plus, alors là, on n'en a pas parlé, c'est cinématographique. Le Hugo aurait rêvé être, il entretenait une très bonne relation avec Fellini, mais il aurait rêvé être cinéaste, être metteur en scène aussi. Mais il disait, la bande dessinée, c'est comme le cinéma, mais c'est un cinéma de pauvres. On peut faire des armées entières sur une planche. Et alors, je parle de cinéma parce que si on s'amuse à analyser les planches de Pratt, il manie son pinceau ou son crayon comme une caméra, quoi. Vraiment, il ose des gros plans que personne n'avait jamais osé dans la BD, sauf Milton Caniff, son grand modèle.
J'allais y venir parce que là aussi, cette gestion des noirs et blancs, elle vient directement de Milton Caniff, ce grand auteur américain qui était de 20 ans son aîné. Je crois que Caniff était né en 1908 et Pratt en 1927. Et on voit à quel point il a été influencé par ce dessin américain, Pratt notamment.
Oui, bah c'est ce qu'il va découvrir adolescent, du reste. Parce que Caniff était publié en Italie, en particulier la série qui s'appelle Terry et les pirates, enfin qu'on appelle en français Terry et les pirates. Donc il va découvrir, ça va être un vrai choc graphique. Il dessine depuis l'enfance. Hein, Bon, il racontait même qu'il ne faisait pas les dictées à l'école parce que l'instituteur lui donnait l'autorisation de faire les dictées en dessin. Donc, et ensuite, le directeur d'école mettait le tampon et acceptait aussi, sur deux classes différentes. Oui. Dans le peu de liberté pédagogique de l'Italie fasciste, j'ai comme un doute. Je pense qu'il pouvait faire des dessins en plus des dictées, ça sans doute, mais ne pas faire les dictées et les remplacer par des dessins illustrant le texte de la dictée, j'ai un doute. Mais en tout cas, s'il le dit, ce qui est important, c'est qu'il dessinait depuis tout petit. Il n'a jamais envisagé, si ce n'est le cinéma, faire autre chose que du dessin.
Les amateurs de bande dessinée le savent, Caniff, Milton Caniff, ça s'écrit à la fin avec deux F. Oui. Et vous avez l'intuition que si Pratt a deux T, ce n'est pas tout à fait un hasard.
En fait, il suffit de mettre l'une à côté de l'autre la signature Hugo Pratt avec le H et le T et la signature Milton Caniff. Il y a vraiment quelque chose qui est proche. J'en sais rien. Par contre, je me reproche de pas avoir posé, lorsqu'il en était temps encore, la question à Hugo. Mais c'est vrai que le Caniff et le Pratt se ressemblent beaucoup.
Ça fait une heure que nous devisons autour d'Hugo Pratt et de Corto Maltese plus particulièrement dans le cadre de cette exposition formidable de Corto Maltese, une vie romanesque à la BPI. Si vous avez quelques questions, elles sont les bienvenues. On vous voit mal. Oui, une question ici. Voilà, en plus vous allez pouvoir nous la poser.
Oui, bon, bonsoir à tous. Moi, j'avais juste une petite observation sur les opinions politiques de Pratt. C'était juste pour signaler qu'il avait quand même accepté de contribuer à un ouvrage pour le centenaire du Parti Socialiste Italien. Donc, ça explique peut-être... Enfin, il aurait refusé s'il n'avait pas été plutôt au centre-gauche de l'échiquier politique, je pense.
Vous confirmez l'analyse de Michel Pierre.
Oui, alors avec une particularité, parce que c'est un parti socialiste italien qui lui a... Enfin bon, il a effectivement fait le cœur, ce qu'on a appelé en italien le cœur garibaldien, pour le centenaire du Parti socialiste italien, mais un parti socialiste qui éclate sous les scandales au moment où l'album fait par Pratt va sortir en Italie. Ce qui fait que l'album original pour le centenaire du PSI n'a jamais été diffusé. On a détruit des dizaines de milliers d'exemplaires parce que, alors on ne va pas faire l'histoire de l'Italie contemporaine, mais entre Andreotti et quelques autres hiérarques du Parti socialiste italien, on n'était pas loin... Quand même, on est en plein dedans de scandales absolument pas possibles. Donc, il n'aurait certainement pas fait ce qu'il a fait pour le PSI, pour évidemment la droite ou l'extrême droite italienne. Mais je pense qu'il l'a fait aussi malgré tout parce que c'était économiquement intéressant. Il a pas fait un album militant. On le voit bien du reste parce qu'il rend hommage, alors là on pourrait faire presque une conférence sur cet album et sur cette publication, il va pas complètement raconter une histoire qui aurait été vraiment complètement dans l'axe de ce qui lui était demandé. Il prend des précautions quand même. Évidemment, il ne l'aurait pas fait pour un autre parti.
Y a-t-il encore une question? N'hésitez pas à lever la main. Oui. Attendez, on va vous donner le micro.
Merci pour cette superbe conférence. Mais que pensez-vous des reprises qui ont été faites, cette mode qu'il y a actuellement de reprendre
Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a deux projets parallèles. Il y a un projet dit corto classique par les Espagnols, Juan Díaz Canales au scénario, Ruben Pelerero au dessin, et une autre évocation de Corto Maltese qui là est transposée dans un monde contemporain aujourd'hui par Martin Kenéen au scénario et Bastien Vivès au dessin. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, je trouve ça bien qu'un personnage soit repris.
On peut être préciser que autant, par exemple, Hergé ou Jacobs ne voulait pas, enfin, si Jacobs voulait, mais autant Hergé ne voulait pas qu'on reprenne Tintin, autant Hugo Pratt avait fait savoir qu'il souhaitait que son personnage lui survive.
Oui, il y avait même un moment, ça a été vraiment question que ce soit Manara, par exemple, qui reprenne le personnage de Corto Maltese.
Avec qui Hugo Pratt avait travaillé?
Oui, bien sûr, il a fait deux albums, il a été même le héros lui-même.
HP Hugo Pratt, HP et Giuseppe Bergman.
Comment dirais-je? Je sais pas, je trouve ça plutôt réussi, hein, personnellement, mais c'est autre chose. C'est le personnage est repris. Je trouve que ce qu'on a fait Bastien Vivès avec un corto jeune dans un autre univers rejoint peut-être un peu la fantaisie qui était aussi celle d'Hugo. Non, je trouve ça plutôt réussi, mais évidemment, c'est autre chose. C'est autre chose.
Une question encore ici, s'il vous plaît.
Bonsoir. Merci, Michel. Moi, j'ai toujours une question sur la disparition de Corto Maltese, parce qu'on parle tout le temps de la guerre d'Espagne. Or, dès le premier album, il y a quand même une lettre où Pandora évoque l'oncle Corto avec une date précise qui est postérieure à 36. Donc, et ça, c'est du vivant de Pratt, dès la balade de Mère Salée.
Oui, mais quand il fait la balade de la Mère Salée, il ne sait pas qu'il va en faire un personnage. Hein, donc, il met ça comme ça. Après, c'est arrivé d'autres fois, quand je suis dans des discussions avec lui, il faut qu'il rattrape quelque chose qu'il a créé dans un album et qui tout d'un coup risque de rentrer en contradiction avec un autre. Donc je pense qu'il a... Bon, c'est vrai qu'il a toujours dit qu'il disparaissait, ça ne veut pas dire qu'il meurt, hein, effectivement, il disparaît au moment de la guerre d'Espagne, qui était quelque chose qui lui semblait aussi symboliquement intéressant, politiquement et historiquement. Donc moi j'aime bien l'idée de l'oncle Cortot aussi, c'est bien, il y a un côté pas fin de vie, mais oncle Paul qui est assez marrante.
Encore une question ? Bien, ben nous allons remercier Michel Pierre, peut-être en lui demandant, on a vu qu'il l'avait déjà produit avec Hugo Pratt autour de Cortot, des projets encore autour de Cortot ?
Oui, enfin le projet serait de faire pour le 100e anniversaire de la naissance de Hugo Pratt, donc en 2027, la biographie. Mais la biographie d'Hugo Pratt, mais sans toucher à la légende. Parce que Hugo Pratt, on connaît beaucoup de choses de lui. Il a fait beaucoup d'entretiens. Il y a les livres très bien faits de Dominique Petitfaux. Mais quand on est historien, on a envie d'approcher vers un peu plus de vérité ou de réalité. Parce que Hugo Pratt, il me l'a dit, mais comme il disait fréquemment, quand on discutait parfois d'éléments de sa vie ou de ses influences ou autres, on disait non, là peut-être que ça colle pas ou autre, ben, il répondait écoute, tu m'embêtes, ce sont mes souvenirs puisque j'ai choisi de les inventer. Donc il faudrait sur cette biographie, si j'y arrive, respecter la légende, ramener la vérité, faire la part du faux, du vrai et du semblant. On sait très bien, par exemple, que dans la légende, l'enfant qu'il dit avoir eu en Amazonie, dans une tribu du Brésil, appartient à son invention personnelle. On sait très bien que quand il raconte qu'il avait la clé de la maison des ancêtres maranes partis de Tolède pour venir à Venise vient d'une espèce de délire imaginaire avec l'écrivain Alberto Ungaro. On sait que les ancêtres justement maranes ou plus ou moins juifs qu'il met dans son ascendance relèvent du récit des contes de Venise. Donc après, j'ai pas non plus, c'est pas marrant de dire ah mais non, qu'il nous a dit là, c'est pas vrai, non, c'est pas ça. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il va aller chercher tel ou tel élément qu'il va raconter de sa vie, alors que d'autres qu'il a cachés ont encore un pouvoir romanesque plus fort. C'est-à-dire de réussir, là, le travail, ça va être d'essayer de se dépatouiller de tout ça en ne détruisant pas la légende et en donnant, enfin en jouant, en restant fidèle à l'esprit de Hugo, mais surtout en découvrant le peu que j'ai commencé à faire, que finalement la vérité est encore plus extraordinaire que la légende. Alors là, on va faire l'inverse de la fameuse citation de la fin de L'homme qui tua Liberty Valance, de faire qu'entre la légende et la vérité, on va choisir la vérité parce qu'elle est encore plus légendaire que la légende.
Imprimons la vérité. Les journalistes ne peuvent que confirmer la pertinence de ce propos. Merci d'être venu écouter Michel Pierre. Merci d'être venu écouter Hugo Pratt et Cortot. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un nouveau lundi Cortot. Cette fois-ci, ce sera carte blanche à Vincent Petit, qui est l'actuel éditeur chez Casterman des œuvres de Cortot Maltès. Merci à vous. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Un immense merci à Michel Pierre et Jean-Christophe Augier pour cette passionnante discussion et ces références qui ont éclairé la lecture de l'œuvre du groupe Pratt. Je vous rappelle que la discussion est disponible en replay sur le site de la BPI. Et comme l'a dit Jean-Christophe, nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Merci.
Élisée Corto-Maltese.